بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فأجردو le 23 du mois de Ramadan de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 16e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunnah de l'imam al-Mubaddal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Le cours d'aujourd'hui traitera de la descente de Isa alayhi salam. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, « Croire que Isa, fils de Maryam, descendra et le tuera à la porte de l'Oud. » Tuera qui ? Bien sûr, l'antéchrist, Ad-Dajjal, comme nous avons lu dans le chapitre précédent. Je commence par le cours concernant Ad-Dajjal, et si nous avons le temps, je ferai un résumé de notre croyance concernant Al-Mahdi, car j'en avais parlé la semaine passée, cette croyance a un lien direct avec la croyance en Ad-Dajjal et Isa alayhi salam. Puisque comme nous allons le voir, Isa alayhi salam descendra à la fin des temps et rejoindra Al-Mahdi qui sera Al-Amir, le chef des croyants à cette époque-là. Et c'est lui, Isa alayhi salam, qui tuera Ad-Dajjal, comme l'a évoqué ici l'imam Ahmed. Et donc à cette époque-là, les croyants seront dirigés par le Mahdi. Donc la croyance en Al-Mahdi rentre dans la croyance en Ad-Dajjal et Isa, qui font partie, comme je l'ai dit la semaine passée, de la croyance que nous avons en la fin des temps, ou ce qui se passera à la fin des temps. Al-Sheikh Rabi' Hafidahullah dit, dans le sens de ses paroles, « Cela est rapporté, c'est-à-dire la descente de Isa alayhi salam, et le fait qu'il tuera Ad-Dajjal à la porte de l'Oud. » Avant de commencer, la porte de l'Oud, donc comme ceci est rapporté dans le hadith, la porte de l'Oud, c'est-à-dire à l'entrée de la ville de l'Oud, et l'Oud est une ville qui se trouve en Palestine, à côté de la ville de Ramla, à côté de la ville de Ramla, en Palestine. Pour bien comprendre cette explication ou cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le tuera à la porte de l'Oud, c'est-à-dire à l'entrée de la ville de l'Oud qui se trouve en Palestine. Il dit donc, Hafidahullah, dans le sens de ses paroles, cela est rapporté dans des hadiths authentiques. Dans l'authentique de l'imam muslim, il est dit que Isa alayhi salam descendra avec les mains sur les épaules de deux anges portant deux tuniques en tissu, teint de safran et de mémécil tinctorial. C'est l'un de vous qui va expliquer ce qu'est le mémécil tinctorial. Mettant ses paumes sur les ailes des deux anges. Comme l'a dit Cheikh, ce hadith est rapporté par l'imam muslim dans son sahih. Et ici, le traducteur a dit mémécil tinctorial, c'est-à-dire que Isa alayhi salam descendra d'où? Hein? Ahsant, du ciel. Pourquoi il descendra du ciel? Ahsantum. Ceci fait partie de notre croyance en Isa, fils de Maryam, alayhimas salam, comme nous allons le voir à la fin du cours d'aujourd'hui, lorsque je vais résumer notre croyance en Isa. Une chose que j'ai déjà expliquée lors d'une khutba, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents, pendant une kalima que j'ai donnée aussi après cette khutba, et lors d'une série de cours, dans l'explication du livre que les frères vous ont distribué il y a quelques semaines, concernant les preuves de l'évangile sur le fait que Isa alayhi salam n'est pas le seigneur des mondes, ni le fils du seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala, mais il est seulement un prophète et messager. Et notre croyance en Isa, ayyuha al-ikhwa, le fait de bien connaître et de bien comprendre la croyance des musulmans en ce grand prophète et messager Isa alayhi salam est quelque chose de très important. Car ceci fait partie de la croyance en ou au messager, qui fait partie, encore une fois, des six piliers de la foi. Et en particulier, lorsque nous habitons, nous nous trouvons dans des pays qui sont à forte majorité chrétienne, comme la France. Donc, il n'est pas correct que le musulman ne connaisse pas sa croyance au messager, qui fait partie de l'un des six piliers de la foi, et en particulier en certains de ces messagers lorsqu'ils se trouvent dans des pays comme la France, à forte majorité chrétienne. Plutôt, nous voyons que beaucoup de musulmans s'égarent à propos de Isa alayhi salam, comme je l'avais expliqué dans cette série de cours. Je vais faire rapidement un résumé à la fin du cours d'aujourd'hui concernant notre croyance en ce grand prophète et messager Isa alayhi salam, fils de Maryam. Il dit ici donc qu'il descendra avec les mains sur les épaules de deux anges portant deux tuniques en tissu teint de safran et de mémisile tinctorial. Bon, ici, le traducteur a dit mémisile tinctorial. Je ne sais pas exactement ce qu'est le mémisile, mais tinctorial, ce sont une sorte de plante qu'on utilise pour teindre les vêtements. Comme le safran lui-même est utilisé pas que dans le maraq, pas que dans la marqa, donc pour faire, mais aussi pour teindre les vêtements. De même que ce qui est rapporté dans ce hadith, c'est al-wars. Al-wars ou al-za'afran. Al-za'afran, donc le safran, et al-wars. Al-wars, c'est une plante qui est, pour résumer, le curcuma. Si vous connaissez ce qu'est le curcuma. Une plante dont on prend une partie de cette plante et on râpe et on en fait... On moue, et on en fait de la poudre qui est utilisée pour mettre dans les plats, de même que pour se soigner, de même que pour teindre les vêtements. Al-wars. Donc vous pouvez changer ce mot par le curcuma, afin que ce soit mieux compris. Il dit donc, mettant ses paumes sur les ailes des deux anges. Il dit ensuite, il descendra près du phare blanc à l'est de Damas. Ici, il a traduit par phare, ce qui est une traduction, on va dire, correcte du terme manara. Mais ce qui est voulu ici, el-manara, c'est l'endroit où nous faisons el-adhan. Donc, le minaret serait une traduction plus juste. Wallahu a'lam. Donc, il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. El-imam, el-hafid, el-nawawi, rahimahullah, dit dans son commentaire du sahih de l'imam muslim, que ce minaret existe à cette époque. À quelle époque? L'époque de Al-Hafid al-Nawawi. Il est mort à quelle époque? Juste un siècle. Hein? Tfaddal. Sixième siècle. Il est mort au sixième ou il est mort au septième?
Septième.
Ahsant. Il est mort au septième siècle. Donc pour bien se situer, on dit al-Nawawi. On a l'habitude d'entendre le nom de ce Hafid, de ce grand savant, rahimahullah. Mais quand est-ce qu'il est mort? Pour le situer à peu près. Il est mort donc au 7e siècle. Rahimahullah. Et il dit, à cette époque, ce minaret blanc à l'est de Damas était présent. Et il dit aussi, rahimahullah, que ceci fait partie des mérites de cette ville, la ville de Damas, qui se trouve donc en Syrie actuelle. Il dit donc, il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, comme ceci est rapporté aussi dans... C'est un hadith authentique. Puis s'orientera vers les musulmans. De là, il ira pour tuer Ad-Dajjal et il le tuera. Ce messie, prophète et messager, il parle ici, Al-Shir, Havidahullah de Isa, alayhi salam, dominera le faux messie. Al-Masih Ad-Dajjal. Ici, nous avons deux appellations. Al-Masih et Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih, qu'on pourrait, ou qui est traduit communément par le messie en français. Que veut dire cette appellation? On appelle donc Isa, fils de Maryam, alayhim as-salam, al-Masih. De même que l'antéchrist, on l'appelle Ad-Dajjal, al-Masih Ad-Dajjal, on l'appelle aussi, et ceci fait partie des appellations qui sont venues dans des hadiths authentiques, comme dans le Mousnad de l'imam Ahmed et autres, al-Masih al-A'war, donc c'est-à-dire le Messie borgne, al-Masih Ad-Dajjal, le faux Messie ou le Messie menteur, comme on a vu la semaine dernière concernant l'explication de ce terme Ad-Dajjal, de même que Masih Ad-Dalala, le Messie de l'égarement. Ces trois appellations sont rapportées dans des hadiths authentiques. Al-Masih, concernant Isa, puisque c'est le sujet de notre cours aujourd'hui, que veut dire ce terme Al-Masih? Pourquoi on l'appelle le Messie Al-Masih? Tfaddal. Le sauveur, c'est une manière dont ils ont d'expliquer le terme Messie. Mais ici, le terme Messie, quand on dit le Messie Isa alayhi salam, c'est une... Je ne sais pas si c'est même une traduction, plutôt une adaptation en français du terme El-Messie. Et le Messie, sans aucun doute, dans la langue française, a un sens, comme l'a dit le frère ici, le Sauveur et autres. Mais ici, ce que je veux expliquer, c'est le terme « Masih ». « Al-Masih » comme « Al-Masih al-Dajjal ». « Anis, tfaddal ». Certains, ils ont donné cette explication-là. Le fait que Allah Azzawajal, par cette personne, il efface la mécréance. Une autre explication qui serait plus juste ou prépondérante auprès des savants. Biram, tfaddal.
Comme le chef il dit dans le livre, c'est Siyah.
Ahsan, ça c'est le traducteur en fait qui a mis ça. Faites bien attention. La note ici en bas, c'est une note du traducteur. Comme l'a dit Biram, il dit qu'il vient donc de Siyah. Et il a dit ici, ah, tu as.
C'est la notion du déplacement en fait.
Tu as le livre en arabe de Cheikh Rabia ou pas? D'accord, Ahsan. Donc, Siyaha, ici, il dit ici, le traducteur dans la marge, il est dit qu'il a été ainsi appelé parce qu'il se déplaçait de façon permanente sur la terre. Donc, comme l'a dit votre frère Biram, Siyaha, le fait qu'il se déplaçait de manière permanente sur la terre, c'est-à-dire qu'il ne restait pas à un endroit fixe, qu'il ne prenait pas place à un endroit fixe, plutôt qu'il se déplaçait de manière permanente sur la terre. Et c'est pour cela que Isa, alayhi salam, a été appelé El-Masih. Ceci est une des explications les plus prépondérantes auprès des savants. Une autre explication aussi, Kamel Tfaddal. Ahsant, comme il est rapporté dans, comme l'a évoqué Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, le fait que El-Masih, cette personne, passait sa main ou essuyait ou passait sa main sur le malade et que ce dernier, par la permission d'Allah, bi'idhnillah, guérissait. Et ceci est une des explications prépondérantes des gens de science concernant cette appellation El-Masih. Il y a d'autres explications aussi que je ne vais pas rapporter ici. Maintenant, concernant Masih al-Dalala, le Masih de l'égarement, El-Masih al-A'war, El-Masih al-Dajjal, pourquoi est-ce qu'il est appelé El-Masih? Allez, Shabab. Fadal Mouhamad. Ahsant. Les savants disent qu'il y a plusieurs explications, et les deux explications prépondérantes aussi chez les gens de science est soit qu'il a été appelé El-Masih, donc El-Dajjal on parle ici, parce que son œil droit est Memsouha, c'est-à-dire effacé, éteinte, donc il est borgne, il ne voit pas avec cet œil, ou alors parce que Kamel Andak, Tfaddal, Ahsant, parce que aussi il se déplace sur la terre, sur l'ensemble de la terre, comme on l'a dit, parmi les signes de cette personne, le fait qu'il parcourt l'ensemble de la terre, sauf Mecca ou Al-Médina. Il rentrera dans chaque contrée, hormis Mecca ou Al-Médina. Donc, il yamsahu al-ard. Il voyage sur la terre, sur l'ensemble de la terre. De même qu'il parcourt de grandes distances en peu de temps. Ceci fait partie de ses caractéristiques, des caractéristiques qui le rendent extraordinaire aux yeux de certaines personnes, le fait qu'il parcourt de très grandes distances en très peu de temps. Ceci pour l'explication de El-Masih. En effet, ici, Ashir dit en effet le nom Masih, de Isa, alayhi salam, est tiré du terme Siyaha. Et le substantiel Masih al-Dajjal est tiré du terme Mamsouha, donc effacé, parce qu'il est borgne. Son œil est effacé, et Isa est un prophète et messager, tandis que l'autre est un grand menteur. Puis il dit, Hafidahullah, après l'avoir tué, Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj apparaîtront. Vous vous rappelez, Ya'juj wa Ma'juj, on a dit qu'ils font partie des signes avant-coureurs de l'heure. Mais quelle sorte de signes avant-coureurs? On a rappelé trois sortes de signes avant-coureurs. On a dit que les savants classaient les signes précurseurs de l'heure en plusieurs catégories ou sous-catégories. Certains les ont placés en deux sous-catégories. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont dit, deux sous-catégories. Ils ont dit que les signes avant-coureurs de l'heure sont de deux sortes. Quelles sont-elles, Massid Faddal?
Ceux qui sont continuels et ceux qui sont déjà passés qui reviendront pas.
Ça, c'est ceux qui l'ont classé en trois sortes. On va revenir, je vais te donner la parole. Faddal.
Mineur et majeur.
Ceux qui l'ont classé en deux sortes uniquement, ceci est un sous-classement de nos savants. Ils ont dit Al-Amarat, Al-Ashrat, Al-Kubra, majeur, et Sughra, mineur. D'autres ont donné un autre classement, comme l'a dit Massi ici. Tfaddal.
Ceux qui sont déjà passés qui reviendront pas.
Il y a ceux qui sont déjà passés et qui ne reviendront pas, qui sont terminés comme Hein? La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lune qui s'est fendue, et autre que cela, ahsantum. La deuxième catégorie.
Ceux qui sont permanents, on va dire.
Ceux qui sont déjà arrivés et qui continueront à apparaître. Comme par exemple, Fadal Tariq. La mort des savants. De même que la disparition de la science et la propagation de l'ignorance. La propagation aussi du meurtre et autres. Et la troisième catégorie, les grands signes, les signes avant-coureurs qui ne sont pas encore apparus. Et parmi ces grands signes avant-coureurs, donc nous avons cité ces 10 grands signes qui ont été rappelés dans le hadith de l'imam muslim. Et parmi ces 10 grands signes, la venue ou la sortie de Gog et Magog. Ahsantum. Ici, il dit donc, après l'avoir tué, Gog et Magog apparaîtront. Issa et les croyants qui seront avec lui se retireront vers le mont Tour. Ensuite, Issa et ses compagnons s'orienteront vers Allah, Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'ils invoqueront Allah, tabaraka wa ta'ala, contre eux. Allah les fera alors périr. La terre dégagera une mauvaise odeur à cause d'eux, de leurs cadavres. Ils invoqueront Allah, Azza wa Jal. Allah leur enverra des oiseaux ressemblant au cou des chameaux. Ceux-ci les transporteront où Allah voudra et les jetteront. Puis Allah, tabaraka wa ta'ala, fera descendre une pluie abondante qui laissera la terre lisse comme un miroir, propre. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera aux bénédictions de la terre de sortir. La grenade, ar-rumman, suffira à un groupe de personnes et des gens s'abriteront en dessous de son arbre. L'arbre de la grenade, le grenadier. Allah bénira le lait du bétail. La semence d'une chèvre suffira à la fraction d'une tribu. C'est une bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, hafidahullah, cela fait partie des grands signes de l'heure qui sont entre autre, l'apparition d'Ed-Dajjal, comme nous l'avons cité, la descente de Issa, l'apparition de la bête, le lever du soleil de l'ouest, tous ces faits se réaliseront, cela fait partie des grands signes précurseurs, et la croyance à ces grands signes fait partie de la croyance en au jour dernier, qui fait partie d'un des 6 piliers de la foi, comme vous le savez. Ici, pour résumer, ou pour apporter un surplus de détails, nous dirons qu'il est rapporté aussi dans certains hadiths authentique que Isa alayhi salam restera sur la terre 40 années. Isa alayhi salam restera sur la terre 40 années avant de mourir, car effectivement le prophète et messager Isa fils de Maryam alayhi salam n'est pas mort comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Plutôt Allah azza wa jalla l'a élevé auprès de lui. Il n'est toujours pas mort et il redescendra à la fin des temps. Ce grand prophète et messager, qui fait partie des plus grands prophètes et messagers, Issa, fils de Maryam, n'est ni le fils de Dieu, ni le troisième des trois, ni Dieu lui-même. Plutôt, il est un grand prophète et messager, ceci la croyance des musulmans. Donc, il n'est pas permis à un musulman de manquer de respect à ce grand prophète et messager. Plutôt, nous le respectons et nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes et messagers d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci est notre croyance en Isa, alayhi salam. Nous croyons en tout ce que le Coran nous a informé à propos de lui, de même que tout ce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de lui, et parmi ces choses, le fait qu'il... Ouvrez la porte à Sekou, s'il vous plaît, les frères. Commencez à vous approcher un petit peu, parce que les gens de la mosquée vont commencer à arriver, de même que vos frères qui viennent assister au cours. Donc ceci est notre croyance en ce grand prophète et messager Issa, fils de Maryam. Il n'est donc pas permis d'insulter ou de manquer de respect à ce prophète, de même qu'à l'ensemble des prophètes. Et nous voyons ici l'ignorance de certains musulmans qui ne connaissent pas leur croyance, qui se permettent de manquer de respect à ce prophète, ceci en réponse à un manque de respect qui serait fait à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une erreur et une ignorance, sans aucun doute, de leur part, car celui qui aura manqué de respect à Isa alayhi salam aura certes manqué de respect à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a dit à ses compagnons, je suis plus en droit de Isa ibn Maryam, je suis plus en droit de me revendiquer de Isa, fils de Maryam, car il n'y a pas de prophète entre lui et moi. C'est-à-dire qu'entre lui et notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal n'envoya aucun prophète. Et notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, le dernier des prophètes. Donc quand Isa alayhi salam descendra, comme il est venu dans ses hadiths, comme nous l'avons expliqué ici, ne descendra pas en tant que prophète et messager. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas avec une nouvelle législation, plutôt il suivra la législation de l'islam. Il suivra la législation de l'islam. Et il est rapporté dans plusieurs hadiths qu'il cassera la croix. Il cassera la croix, et ceci est quelque chose de symbolique. Vous savez que la croix, chez les chrétiens, représente plusieurs choses. Nous pouvons voir que le fait qu'ils portent une croix autour de leur cou est quelque chose d'étrange de leur part, du fait qu'ils croient, les chrétiens, de même que les juifs croient cela, puisque ce sont les juifs qui ont essayé de crucifier El Messih, Isa ibn Maryam. Mais les chrétiens croient que Jésus, fils de Marie, a été crucifié sur la croix. Et ils ont à propos de cela plusieurs croyances, comme le fait que ceci est arrivé pour comme expiation au péché de l'humanité, et autre que cela. Et ceci est étonnant de leur part, donc ils portent la croix et qu'ils grandissent et, ils donnent cette importance de leur religion à la croix, cette croix sur laquelle, selon eux, Isa aurait été crucifié. Ceci est étrange de leur part. Il faut savoir que les chrétiens estiment la croix comme étant, lorsqu'ils portent la croix, ils estiment qu'ils portent le fardeau. Car ils pensent, dans leur croyance, que donc, lorsqu'ils ont accroché cette personne qui ressemblait donc à leurs yeux à Isa, fils de Mariam, ce dernier a porté la croix pendant une longue durée. Ceci faisait partie du supplice qui lui était infligé par les Juifs. Et donc, eux, lorsqu'ils mettent cette croix autour du cou, eh bien, ils pensent ou ils ont comme croyance qu'ils sont en train de porter ce fardeau. Ce fardeau, une partie du fardeau qu'a porté, selon eux, Jésus, fils de Marie. Et donc, ceci est symbolique. Ce dernier, alayhi salam, brisera la croix. La croyance que ces derniers ont en la croix et rétablira la vérité. Et c'est pour cela qu'une partie des chrétiens le suivra avant sa mort, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre. Une partie des croyants le suivra avant sa mort, c'est-à-dire avant sa mort. Il n'est pas mort aujourd'hui, donc on ne parle pas des chrétiens de cette époque, mais plutôt des chrétiens à la fin des temps, qui le suivront et qui croiront en lui à ce moment-là. Ceci est notre croyance en Isa alayhi salam, mais pour plus de détails, revenez à ces cours que j'ai évoqués. Nous avons un petit peu de temps pour parler de notre croyance concernant El Mahdi, avant d'entamer le deuxième cours sur quelques sujets qui ont attrait aux jeunes et en particulier à la zakat de la rupture du jeûne, zakatul fitr. Notre croyance en El Mahdi, la croyance des gens de la sunna, est que ce dernier est un homme qui viendra à la fin des temps. Un homme de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont son nom sera le même que le sien, et dont le nom de son père sera le même que celui de son père. C'est-à-dire qu'il s'appellera Mohammed ibn Abdillah. Il sera surnommé El Mahdi. Il remplira la terre de justice comme elle fut remplie précédemment d'injustice. Il est rapporté, d'après Abu Saïd al-Khudri, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, le Mahdi va sortir à la fin de cette communauté. Il va sortir, il va venir à la fin de cette communauté. Allah va faire descendre la pluie et la terre sortira sa végétation. Il va donner l'argent de manière équitable et il y aura beaucoup de bétail. La communauté s'agrandira et ils vivront 7 ou 8 ans. Après donc la sortie et la venue de le Mahdi. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Hakim et autres et qui est authentifié par Cheikh Nasr. Rahimahullah. Selon Abdallah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, s'il devait rester un seul jour sur terre, Allah le prolongerait afin d'envoyer un homme issu des miens ou de ma famille. Il portera le même nom que le mien et son père a le même nom que mon père. Ce hadith est aussi authentifié par Cheikh Nasr. Il est rapporté aussi d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, le Mahdi fera partie des miens. Il aura le front large et le nez aquilien. Nez aquilien, c'est un nez qui est un petit peu tordu comme cela. Il répandra l'équité et la justice sur terre. Encore une fois, vous voyez, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths, nous a décrit cette personne. Ceci n'est pas anodin, Yul Ikhwa. Il nous décrit avec beaucoup de détails Ad-Dajjal afin que nous nous préservions de lui, de cette grande fitna, de cette grande épreuve. De même, il nous détailla et nous caractérisa Al-Mahdi. Pourquoi ? Car, et ceci fait partie des signes de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam, car beaucoup de gens se sont égarés dans leur croyance en Al-Mahdi, comme ils se sont égarés dans beaucoup d'autres points dans la croyance, comme la croyance en Isa alayhi salam, la croyance en Ad-Dajjal, comme cela, Al-Mahdi, comme nous allons le voir ici. Il dit donc, dans le sens de ses paroles, il fera partie des miens, il aura le front large et le nez aquilien, il répandra l'équité et la justice sur terre, comme il y fut répandu l'iniquité et l'injustice. Il régnera 7 ans, il gouvernera 7 ans. Et d'après Ali, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Mahdi fait partie de nous, Ahl al-Bayt. Allah va l'arranger, le préparer, c'est-à-dire, yuslihuhu Allahu fi layla. Il va l'arranger, il va le préparer à cette mission d'être al-Mahdi en une seule nuit. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Nasr. Et sa venue sera à la fin des temps, comme nous l'avons évoqué. Il fera porter dans le recueil authentique de l'imam muslim qu'il dirigera la prière des musulmans avec, dans leur rang, Isa ibn Maryam. En effet, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, dans le sens de ses paroles, Isa, le fils de Maryam, descendra sur terre et le Mahdi, leur émir, lui dira, viens présider la prière. Il dira, non, vous êtes des émirs, les uns pour les autres. Et ceci est un honneur qu'a fait Allah Azza wa Jal envers cette communauté. Donc, Al-Mahdi appellera Isa, le fils de Maryam, à présider la prière, à être leur imam. Et Isa de refuser de dire, d'avancer donc Al-Mahdi, de dire, vous êtes des émirs les uns pour les autres dans cette communauté. Ceci est un honneur que Allah Azza wa Jal a fait à votre communauté. Et il y a plusieurs choses qu'il convient de préciser rapidement concernant Al-Mahdi. Donc il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés concernant Al-Mahdi et sa description. Certains sont authentiques et certains sont faibles. Vous trouverez beaucoup de hadiths faibles concernant Al-Mahdi, sa description, sa venue, le temps de sa venue, l'endroit d'où il viendra et autre que cela. Faites bien attention. Encore une fois, nous prenons notre croyance comme le reste de notre religion, du Coran et de la sunna authentique, donc des hadiths qui sont authentifiés, et non de n'importe quel hadith qui est évoqué par n'importe quelle personne, disant que Al-Mahdi fera et sera, et à partir de là où tu entends cette parole-là, tu dis, c'est comme ceci, tu y crois, sans te poser de questions. Plutôt, notre croyance, comme le reste de notre religion, doit être prise, comme vous le savez, du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de la sunna authentique. Une deuxième chose, la diffamation de certains malades du cœur concernant ces ahadiths. Certaines personnes ayant un penchant vers l'égarement et une maladie dans le cœur ne reconnaissent pas ces ahadiths traitant de l'Mahdi. Plutôt, ils ne croient pas en la venue de l'Mahdi. Et vous trouverez beaucoup de gens, et en particulier sur ce genre de réseaux sociaux comme YouTube et autres, rapporter ce genre d'ineptie et essayer de répandre cela, de répandre leur poison dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point que nous avons vu certaines personnes, il y a de cela quelques années, dire « c'est moi le Mahdi ». Une personne qui ne croit pas en la venue de le Mahdi, mais qui dit « c'est moi le Mahdi, je m'appelle Mohammed ibn Abdillah », qui a été surnommé Mizo. Cette personne-là, il disait qu'il était le Mahdi, et c'est une manière qu'il avait de se moquer des hadiths rapportés sur cela, car cette personne ne croyait pas en Al-Mahdi et voulait dire aux gens, je m'appelle moi-même Mohammed ibn Abdillah, qu'est-ce qui empêche que ce soit moi le Mahdi? Ceci par ignorance de sa part, comme vous venez de l'entendre, ces hadiths qui caractérisent le Mahdi le caractérisent de manière spécifique et précise, qui ne laisse pas de doute et d'équivoque. Il fera partie de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas simplement le fait que son nom soit le même que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fera partie de sa lignée. Il viendra à un moment où la terre sera remplie d'iniquité, la remplira d'équité. Il restera 7 ou 8 ans. Il y a beaucoup de signes. Il ne faut pas prendre un hadith, ceci est plutôt la voie des gens de l'égarement, de prendre un hadith ou un verset et de construire une croyance sur cela en délaissant le reste des hadiths qui viennent les expliquer ou les compléter. Une troisième chose, certains prirent les hadiths traitant de le Mahdi comme moyen de tromper les faibles d'esprit. Faites bien attention à cela. Et mettez en garde les gens de votre famille et votre entourage sur cela. Certaines personnes, autres que ces égarés qui ne reconnaissent pas ces hadiths authentiques sur le Mahdi, certaines personnes ont pris les hadiths traitant de le Mahdi comme un moyen de tromper certaines personnes faibles d'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé ces hadiths concernant le Mahdi, ils ont trouvé que la masse des musulmans croyait en ces hadiths, walillahi alhamd, ils ont cherché à les tromper en se prétendant eux-mêmes d'être le Mahdi. Et tu vois tous les six mois, quelqu'un sortir et nous dire « je suis le Mahdi ». C'est une réalité. Combien de personnes ont prétendu à cette position « je suis le Mahdi, suivez-moi ». Au point que certains ont été la cause de grandes fitan, de grands troubles, de grandes épreuves pour la communauté. Et comme vous le savez, la croyance en Al-Mahdi fait partie des choses de l'invisible, c'est-à-dire que c'est une chose qui se produira dans le futur. Donc il nous convient de croire fermement à ce qui a été rapporté dans les textes du Coran, de la Sunna, et se limiter à cela sans faire rentrer nos raisons, c'est-à-dire que nous ne faisons pas rentrer nos raisons comme étant des juges sur les textes du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jalla nous a accordé notre raison afin que nous puissions raisonner à partir des textes du Coran et de la Sunna et non que nous faisions de nos raisons des juges qui jugent ces textes du Coran et de la Sunna. Faites bien attention à cela. Et il faut savoir que Allah Azza wa Jalla et son prophète ne nous ont pas demandé d'attendre Al-Mahdi. Nous ne sommes pas ordonné de rester et d'attendre Al-Mahdi. Plutôt, tu te dois d'adorer ton Seigneur de la meilleure des manières, et lorsque cette personne apparaîtra, tu te dois de le suivre, selon ce qui est rapporté dans les textes. Mais tu n'es pas ordonné d'attendre une personne qui sera Al-Mahdi, et c'est pour cela que cette personne n'est pas quelqu'un qu'on appelle Al-Mahdi attendu, Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ceci n'est pas une appellation qui est correcte chez les gens de la Sunna. Ceci n'est pas une appellation correcte chez les gens de la Sunna, Al-Mahdi Al-Muntadhar. Il ne nous est pas ordonné d'attendre une personne, de conjecturer à propos d'un tel et un tel. Quand je parle d'attendre une personne, c'est-à-dire d'en venir à conjecturer sur le fait qu'un tel, à chaque fois qu'une personne sort et se revendique de cette personne, nous analysons sa situation. Al-Mahdi sera clair et voyant pour les croyants qui ont cru en ces hadiths rapportés sur ce dernier. Il ne nous est pas demandé de conjecturer lorsqu'une personne se prétend de le Mahdi et de dire « Attendez, on va analyser son cas, analyser son dossier. Est-ce que ceci est valide ou pas ?» Vous comprenez ? Et notre croyance, la croyance des gens de la Sunna diffère de la croyance de Al-Shi'a Al-Rafidah concernant Al-Mahdi. En effet, ces derniers ont dans leur croyance que son nom est Muhammad ibn al-Hassan al-Askari. Chez eux, Al-Mahdi est une personne bien précise qu'ils appellent Muhammad ibn al-Hassan. Bien sûr, chez nous aussi, c'est une personne bien précise. Mais comme évoqué dans les textes, c'est-à-dire cette personne bien précise, celle à qui s'appliquera l'ensemble de ses caractéristiques évoquées dans les textes. Chez eux, c'est une personne qui est déjà née, qui s'appelle Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, donc qui est le fils de al-Hassan al-Askari, qui est né et présent, d'après eux. Mais il faut savoir que al-Hassan al-Askari, historiquement, n'a pas eu d'enfant. Ceci est une chose historique qui est attestée par les savants historiens, de même que les savants en religion. Mais chez eux, il a eu une personne qui s'appelle Muhammad et qui serait rentrée dans une grotte, dans un trou qui se trouve à Sirdab, et en Irak, et cette personne serait rentrée dans ce trou et n'en serait plus sortie. Il serait rentré dans ce trou et donc il y a 1200 ans. Il ne serait plus sorti. Et dans ce trou, donc à Sirdab, en Irak, ils ont mis un panneau à côté. Vous pouvez trouver ces photos, ce n'est pas quelque chose d'inventé sur eux. Il y a des photos, des vidéos. Ils mettent un panneau, ici, la grotte de Sirdab, où est rentré Al-Mahdi, nous l'attendons. Une personne qui est assise avec une chaise devant cette grotte toute la journée et qui prend l'argent. Comme d'habitude, chez les gens de l'innovation, comme Soufia et autres, il est toujours question d'argent. Il prend l'argent des visiteurs qui viennent voir, il leur fait une petite visite guidée, alors vous voyez ici c'est le trou, etc., etc. Et donc, cette personne qui est toujours attendu pour eux, الشيعة الرافضة, qu'ils appellent donc Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ils viennent tous les ans, ils se posent devant cette grotte et ils disent, ils font des du'a, ils disent que Allah Azza wa Jal hâte sa venue et sa sortie. Et ils se positionnent devant sa tombe et ils font cette du'a. Et c'est pour cela que tu trouveras, et faites bien attention pourquoi je vous évoque cela, car beaucoup de hadiths faux et inventés sont répandus sur internet et autres par ces gens-là, الشيعة الرافضة, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et ces gens-là, ils répondent de ces hadiths sur le Mahdi. Si tu tapes le Mahdi, wallahu alam, si tu tapes sur le Mahdi sur Google, je pense que beaucoup de résultats que tu verras, peut-être même les premiers résultats, donc fais bien attention, sera de ces sites-là, des sites de Al-Shia'a Al-Rafida, d'Al-Rawafid. D'accord ? Faites bien attention à cela. Et lorsque tu vois marqué le Mahdi, Ayn Dim, Ayn Dim, en arabe, l'Ayn, ou le Dim, Adj, tu sais que ceci est une parole de Al-Shia'a. Pourquoi ? Parce que c'est, comme nous mettons, par exemple, radiyallahu anhu, à côté de As-Sahaba, par exemple. Nous le mettons en entier, radiyallahu anhu, comme sallallahu alayhi wa sallam, et non pas un sad. Ceci est une erreur. Nous disons, comme nous écrivons, sallallahu alayhi wa sallam. Faites bien attention, ceci est une erreur de n'écrire qu'un sad à côté de Muhammad ou du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ils mettent Ayn Jim. Faites bien attention, si vous voyez cela, vous savez que c'est un site shi'i rafidi. Ceci veut dire Ajjalallahu farajahu wa makhrajah, que Allah hâte sa sortie et son soulagement. Et parmi leurs croyances erronées, afin d'appuyer le fait que ces gens-là sont des égarés, Al-Shi'a Al-Rafida, ils prétendent à propos de l'Mahdi, à l'inverse de, comme vous l'avez compris, chez nous, les gens de la Sunna, nous ne l'appelons pas Al-Mahdi Al-Muntadhar, le Mahdi attendu. Ceci n'est pas une bonne appellation. Nous l'appelons Al-Mahdi, comme il est venu dans les textes. Et parmi les croyances erronées à propos de Al-Mahdi chez Al-Shi'a Al-Rafida, le fait qu'ils disent et qu'ils prétendent qu'à sa sortie, il assassinera les partisans de la Sunna, Ahlus Sunna, les sunnites, pour parler de la manière dont ils parlent eux-mêmes, ils assassineront les partisans de la Sunna, donc les sunnites. Il assassinera aussi Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Ceci selon un détail qu'ils font dans leur livre. Est-ce que cette personne aura le pouvoir de faire revivre et à partir de là, il les fera revivre et les tuera, ou simplement il les fera sortir de leur tombe et il fera telle et telle chose? Ceci sont des choses qui sont expliquées et détaillées dans leur livre. Pourquoi Abu Bakr et Omar? Car Al-Shi'a Al-Rafida ont une haine qui ne s'arrête pas à propos des deux meilleurs de cette communauté, Abu Bakr et Omar. Ils les appellent les idoles de Quraysh. Ils les appellent les deux idoles de Quraysh. Abu Bakr et Omar, les deux meilleurs de cette communauté. Radiallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Et autre que cela, parmi les inventions qu'ils font, comme le fait qu'il jugera selon Az-Zabour, les psaumes de David, les psaumes du prophète Daoud, donc ce livre qui fut donné au prophète Daoud, alayhi salam, donc ils prendront autre que le Coran comme législation, mais plutôt le jugeront selon les psaumes de Daoud. Cela vous rappelle quoi? Le fait que ces derniers, la base de leur croyance, les juifs, le judaïsme. Ils le disent clairement dans leur livre. Al-Mahdi, qui sera l'amir des croyants à la fin des temps, jugera avec les psaumes de Daoud et délaissera le Coran. Allahu Akbar. Comment ces gens-là ne pourraient-ils pas être parmi les armées de Ad-Dajjal. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.